Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Les Paractualités. Non, ça c'est à 11h30. C'est ça quand on anime deux émissions. Alors, c'est bien le quotidien des quotidiens du 17 mai 2018. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Bonjour, celui qui me regardait avec des gros yeux, mais avec Maurice Bolduc.
Oui, bonjour.
Alors, Maurice, la musique est forte, hein?
Non.
Ouais, moi, je trouve. Dans mes oreilles, en tout cas, ça éclate. Alors, les paractualités, ça, c'est pour plus tard, mais pour l'instant, ce sont les éphémérides. Est-ce qu'il y a des choses importantes à souligner en ce 17
oui,
mai?
Oui, 17 mai, quelques journées internationales. C'est la journée mondiale des télécommunications aujourd'hui. La journée mondiale des télécommunications marque la célébration de deux événements importants pour l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. De la naissance du télégraphe aux communications par satellite et à l'Internet, en passant par la radiodiffusion sonore et télévisuelle, les travaux de l'Union contribuaient à tirer parti des potentialités scientifiques et technologiques pour répondre à un besoin fondamental de l'homme, celui de communiquer. Puis comme on fait de la radio, ben, je pense que c'est une bonne place pour communiquer. C'est la journée aussi la journée mondiale contre l'hypertension, donc on prend ce relax. Et aussi très important, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie aujourd'hui, en ce 17 mai. Et j'ai su tout à l'heure, c'est une journée qui a été créée au Québec.
Ah oui?
Par Laurent McEachlin, qui lui, qui était à Gay Écoute durant longtemps là, pour sensibiliser les gens sur le phénomène, sur la cause. Donc, et maintenant, c'est rendu partout international, invention québécoise. En ce 17 mai, on va commencer par le plus récent jusqu'au plus vieux aujourd'hui. En 2007, le CRTC refuse au réseau généraliste des redevances du câble, mais autorise que la réclame publicitaire passe en septembre de la même année de 12 à 14 minutes l'heure, soit sans limite en septembre 2009. En 2004, l'État du Massachusetts devient le premier État des États-Unis à légaliser le mariage entre deux personnes du même sexe. En 1997, Laurent-Désiré Kabila se proclame président du Zaïre, qu'il rebaptise République démocratique du Congo. En 1990, justement, c'était la suppression de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de la Classification internationale des maladies, publiée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En 1995, Jacques Chirac devenait le cinquième président de la Ve République française. En 1939, le roi George VI et la reine Élisabeth arrivent à Québec pour une première visite au Canada d'un souverain. En 1756, une guerre débute entre l'Angleterre et la France, et c'est à ce moment-là que la France perdra le Canada. En 1642, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, et Jeanne Mance fondent Ville-Marie en Nouvelle-France, qui deviendra la ville de Montréal. Quelques naissances. Le médecin anglais Edward Jenner, un pionnier du vaccin. En 1904, lui était né en 1749. En 1904, Jean Gabin, acteur français qui nous a quittés le 15 novembre 1976. Le compositeur français Éric Satie naissait en 1866. Henri Bergeron, l'animateur de télévision canadienne, lui, naissait en 1925.
Monsieur Bon Dimanche.
Oui, absolument. Il a animé très, très longtemps.
Ah ouais.
Les Beaux Dimanches. Et on souligne deux décès. Le hockeyeur canadien Hector Toblake nous quittait en 1995. Il est un ancien un joueur et aussi entraîneur du Canadien de Montréal dans les années 50, un truc du genre. Et en 2012, j'étais pas né, donc...
Mais vous connaissez Shakespeare quand même.
Oh oui, mais je n'étais pas né. Donc en 2012, Donna Summer aussi nous quittait, donc elle suite à un cancer.
Du poumon.
Oui.
Pas vieille, hein? 47 ou 49 ans, une
environ,
chose comme ça?
Oui, assez jeune, oui.
La reine du disco, une voix fantastique.
Ouais,
merci, Maurice.
Plaisir.
À la une de la presse, c'était comme un gourou. L'entraîneur de gymnastique de haut niveau, Michel Arsenault, a été accusé hier d'agression sexuelle et de voies de fait sur six mineurs. Une plaignante se confie à la presse. Je n'obtiendrai jamais le même traitement. Françoise Abanda se dit victime de discrimination raciale. La chronique de Patrick Lagacé intitulée « Ce que j'ai appris en Israël ». médecin canadien atteint par balle à Gaza, nous portions nos uniformes médicaux. Et recharge des véhicules électriques, Hydro va tapisser le territoire de bornes rapides. Ottawa oppose une fin de non-recevoir à Québec, perception des impôts fédéraux. Le gouvernement Trudeau est réfractaire à l'idée de transférer au Québec la responsabilité de percevoir l'impôt fédéral des contribuables québécois, insistant surtout sur la perte d'emplois bien rémunérés dans les centres fiscaux situés dans des régions comme Shawinigan et Jonquière qu'une telle décision causerait. Et si le gouvernement du Québec souhaite une déclaration de revenus unique et faciliter la vie des contribuables québécois, il devrait plutôt envisager d'abandonner sa propre déclaration, estime Ottawa, qui compte déjà une expertise dans l'administration des taxes et impôts provinciaux et territoriaux. Depuis quelques semaines, l'idée de permettre aux contribuables du Québec de produire une seule déclaration de revenus fait son chemin. Sur la scène fédérale, le nouveau Parti démocratique a appuyé cette idée lors de son dernier congrès national, tenu à Ottawa en février, tandis que les militants québécois du Parti conservateur ont aussi approuvé cette option durant le Conseil général qui a eu lieu la fin de semaine dernière à Saint-Hyacinthe. Alors, allons-y avec la crise du recyclage. Montréal paiera jusqu'à 29 millions pour la survie de son centre de tri. L'administration Plante devra verser jusqu'à 29,2 millions pour éviter que son centre de tri ferme et que les matières recyclables prennent le chemin du dépotoir. Devant la crise du recyclage frappant l'ensemble du Québec, les villes québécoises demandent l'aide de Recyc Québec pour trouver de nouveaux débouchés, a appris la presse. Principal importateur de matières recyclables du monde, la Chine a sévèrement resserré au début de l'année ses critères concernant ce qu'elle acceptait de recevoir. Ce changement a eu d'importantes répercussions sur le Québec, qui y envoyait la quasi-totalité de son papier et de son carton recyclé, lesquels n'y sont plus acceptés. Leur prix, sur les marchés ayant chuté, les divers centres de tri doivent depuis composer avec de grandes quantités de matières recyclables pour lesquelles ils ne trouvent pas preneur, en plus de vivre d'importantes difficultés financières. L'impact est majeur pour Montréal. Jusqu'à récemment, la vente du papier et du carton recyclable générait des profits, la métropole ayant encaissé 5,8 millions au cours des 10 dernières années. Radio-Canada a été récemment victime d'un vol de matériel informatique qui pourrait mettre à risque les renseignements personnels et informations financières de quelque 20 000 employés anciens, actifs et contractuels de la société d'État. La nouvelle a été communiquée hier, mais bien peu de détails sur l'événement ont été révélés. Radio-Canada CBC confirme avoir été la cible d'une introduction par effraction. Le lieu, la date et la nature de l'équipement dérobé ne sont pas dévoilés pour ne pas nuire à l'enquête lancée par la police locale. L'intrus est connu de la police locale, a confirmé le porte-parole Douglas Shaw. Le vol a été capté par nos caméras de surveillance. Le suspect, qui ne fait pas partie du personnel de Radio-Canada, n'a volé qu'une seule pièce d'équipement informatique. Rien n'indique pour l'heure que la personne connaissait la teneur des informations qui y étaient enregistrées. Rien ne permet non plus de croire que l'individu a pu avoir accès aux données ou qu'il ait pu les utiliser. L'équipement volé, bien que protégé par mot de passe, pourrait contenir des fichiers électroniques, notamment certains renseignements personnels de nature financière. Même si aucune tentative d'accès aux données personnelles n'a été portée à notre connaissance, je tiens à ce que vous soyez au courant des risques éventuels et des mesures que nous prenons à cet égard. Pouvait-on lire ou peut-on lire dans un communiqué signé Judith Purves, vice-présidente principale et chef de la direction financière de Radio-Canada? J'ai parlé de communiqué, c'était plutôt un message interne envoyé hier après-midi par la vice-présidente principale et chef de la direction financière. Alors qu'il n'était qu'une soixantaine l'an dernier, le Tour du silence a réuni cette année quelques 400 cyclistes à Montréal. La mort tragique du cycliste de haut niveau Clément Ouimet a bouleversé le monde du cyclisme le 4 octobre dernier. Au total, 11 cyclistes ont perdu la vie sur les routes du Québec en 2017, selon le bilan de la SAAQ, la SAAQ. Les participants ont levé leur casque en hommage aux disparus en observant une minute de silence. C'est la mère de Clément Ouimet, Catherine Bergeron, qui agit à titre de porte-parole du Tour du silence de Montréal. « On était rendu là », a-t-elle confié à la presse. Sa famille et plusieurs amis ont participé à l'activité commémorative. « On était rendu à faire quelque chose de positif avec cet événement qui n'a pas de sens. » L'activité est aussi un moment pour sensibiliser les usagers au respect du Code de la sécurité routière, parce que les accidents graves sont souvent liés à des comportements fautifs. Partout au Québec, des cyclistes ont participé au Tour du silence qui se tenait hier simultanément dans 23 villes québécoises. En toute fin de mandat, le gouvernement Couillard ressuscite le commissaire à la santé et au bien-être, un chien de garde dont il avait annoncé l'abolition dans la controverse il y a 2 ans. Philippe Couillard avait créé cet organisme en 2005 au moment où il était ministre de la Santé. Or, 11 ans plus tard, son gouvernement a invoqué des raisons financières pour le supprimer. Le budget du commissaire s'élevait à 2,7 millions de dollars par année. Plusieurs groupes avaient dénoncé la mesure, accusant Québec de vouloir museler la critique. Le gouvernement a annoncé hier sa décision d'amender son projet de loi et de renoncer à l'abolition du poste de commissaire. Une négociation gagnante du PQ a permis d'annuler l'abolition, s'est félicité la porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Diane Lamarre. La ministre du Travail, Dominique Vien, n'a pas l'intention d'accéder à la demande de l'Association des restaurateurs du Québec, ARQ, qui réclame le droit de gérer la distribution des pourboires. Une façon pour eux de compenser les faibles salaires des employés qui travaillent dans les cuisines. Le partage des pourboires, c'est déshabiller Paul pour habiller Jean, a dit l'attachée de presse de la ministre du Travail, Florent Tanlet. Donc, on ne le rajoutera pas. La raison pour laquelle la loi ne permet pas aux restaurateurs de gérer les pourboires, c'est que certains d'entre eux s'en gardaient dans les poches. Le ministre du Travail a toutefois proposé à l'ARC de mettre en place une table de travail pour faire un état de la situation. Cette table devra inclure des restaurateurs et des représentants des employés de service, c'est-à-dire des serveurs, a insisté l'attaché de presse de la ministre Vien. M. Tanlet a rappelé que le ministère du Travail avait déjà accepté une demande de l'ARC, donc l'Association des restaurateurs du Québec, en 2016, de limiter les augmentations salariales des employés à pourboire. L'homme de 39 ans atteint d'au moins une balle à la tête alors qu'il était assis à bord de sa Bentley décapotable lundi à Montréal et mort des suites de ses blessures, a appris la presse. Selon nos informations, Sami Moukaden était maintenu en vie artificiellement depuis les événements survenus lundi dans la rue Bélanger. Un témoin a raconté avoir vu un homme portant un capuchon s'approcher, coller une arme près de la mâchoire de l'automobiliste, puis tirer un seul coup de feu avant de prendre la fuite à pied. Une arme de poing a d'ailleurs été retrouvée, abandonnée sur le trottoir. L'enquête sera transmise aux enquêteurs des crimes majeurs du service de police de la Ville de Montréal. Cette affaire devient donc le 10e meurtre commis cette année à Montréal. Moukaden est le 2e individu possiblement impliqué dans le prêt d'argent à mourir sous les balles depuis le début de l'année. Et pour terminer, le directeur général d'Oxfam Grande-Bretagne, Mark Goldring, a annoncé hier sa démission pour offrir un nouveau départ à l'ONG, dont la réputation a souffert après les révélations d'agressions sexuelles commises par certains de ses employés en Haïti. Dans un communiqué, M. Goldring a précisé qu'il resterait jusqu'à la fin de l'année, mais qu'ensuite, il était bon que l'ONG se reconstruise avec une personne qui amènera une vision fraîche de l'énergie, avec un engagement à long terme. Oxfam avait été au cœur d'un scandale et avait perdu des milliers de donateurs après la révélation en février d'agressions commises en Haïti par certains de ses employés après le séisme de 2010. Une enquête interne avait été menée en 2011 au sujet de la mission humanitaire en Haïti et à la suite de cette enquête, 7 employés d'Oxfam avaient quitté l'ONG. 4 avaient été licenciés pour faute grave, tandis que 3 avaient démissionné, dont l'ancien directeur d'Oxfam en Haïti, Roland Van Overmeeren, qui avait notamment admis avoir engagé des prostituées.
Toute seule à l'ombre, moi je rêve de tes bras. La nuit noire s'effondre et quelques larmes dans ma voix. La route était si longue pour arriver jusqu'à toi. Et tu viens de me dire surtout ne t'arrête pas. Et je regarde encore une fois dans le miroir, je ne trouve pas de quoi te plaire. Alors j'écris des mots sans voix pour oublier que je n'ai pas de quoi te plaire. De quoi te plaire. Il y a autour de moi tous ces hommes à la file, eux-mêmes additionnés.
De quoi te plaire par Pomme qui est accompagnée des sœurs Boulay.
En une de la presse, ça c'est fait, maintenant c'est le devoir du jeudi 17 mai 2018. Une partie des humoristes qui participeront au festival Juste pour rire l'été prochain, Juste pour rire, le premier festival de l'ère post-Roson. Toujours en une du devoir, université, le financement serait lié à l'atteinte des cibles. Le mentor Serge Denoncourt dirige 30 jeunes garçons dans une adaptation du populaire film « Les choristes ». Le Monde, Trump, une réaction mesurée. Le président américain a réagi prudemment à la sortie de son vis-à-vis nord-coréen. Jean-Louis Roy prend les rênes de BANQ. Cannes, John Travolta, replonge dans ses souvenirs. Thank you. Le gouvernement Couillard prévoit la création de mandats stratégiques de 3 ans inspirés de ce qui se fait en Ontario pour chacune des universités québécoises. Selon ce qu'a appris Le Devoir, une partie du financement serait liée à l'atteinte de cibles convenues par Québec et par les établissements. L'élaboration de mandats stratégiques avec chaque établissement d'enseignement universitaire pourrait s'avérer un instrument de dialogue privilégié entre le gouvernement et les universités, indique la nouvelle politique de financement des universités que le gouvernement s'apprête à rendre publique. Les mandats stratégiques pourraient ouvrir la voie à un financement basé, du moins en partie, sur l'atteinte de cibles convenues entre le gouvernement et les universitaires, ajoute le document. Québec doit dévoiler sa nouvelle politique de financement jeudi, donc aujourd'hui. La reddition de comptes des 19 universités québécoises prendra aussi une nouvelle forme. Près de la moitié des 31 allocations spécifiques du financement vouées à une mission précise des universités sont abolies. La ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, refuse de faire tout commentaire avant la publication officielle de la nouvelle politique prévue aujourd'hui. Le Bureau de coopération interuniversitaire qui regroupe les établissements québécois attend aussi la diffusion du document avant de s'exprimer publiquement. Le milieu universitaire se demande jusqu'où ira le mécanisme de reddition de comptes. Le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières n'a jamais senti qu'il avait perdu la confiance de la ministre Hélène David, a-t-il dit mercredi, quelques heures après avoir accepté de lever le lock-out qu'il a décrété le 2 mai dernier. C'est plutôt la menace d'une loi spéciale brandie par le premier ministre Philippe Couillard lors d'un entretien téléphonique mercredi matin qui a poussé Daniel McMahon à lever le lock-out qui affectait 445 professeurs. Philippe Couillard et Hélène David m'ont réitéré leur pleine et entière confiance, ainsi qu'au conseil d'administration, a-t-il déclaré. Le recteur a dit avoir obtenu de la part du premier ministre un engagement ferme d'adopter une loi spéciale d'ici la fin de la législature le 15 juin, si les négociations n'aboutissent pas. C'est cette possibilité, comme une épée de Damoclès, qui permettra aux partis de s'entendre, croit le haut dirigeant. Et pour terminer sur cette nouvelle, la ministre responsable de l'Éducation supérieure, Hélène David, n'a pas attribué le dénouement de la journée à la menace d'une loi spéciale, mais bien à la multiplication des interventions. L'ex-entraîneur de gymnastique Michel Arsenault a été arrêté mercredi pour une série d'agressions sexuelles commises à Montréal à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L'homme de 56 ans était visé par un mandat d'arrestation. Il a été localisé et arrêté chez lui à Edmonton, en Alberta. Arsenault devra faire face à 7 chefs d'accusation, soit trois d'agressions sexuelles et 4 de voies de fait. Une présumée victime aurait donc à la fois subi des voies de fait et une agression sexuelle, a souligné Mme Bilodeau, Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ, la Sûreté du Québec. À 2 semaines du vote de confiance auquel se soumettra Martine Ouellet, la chef du Bloc québécois perd de nouveaux appuis aux instances du parti. Le trésorier Jules Gagné a annoncé sa démission de son poste mercredi matin alors que presque au même moment, l'aile jeunesse du Bloc retirait son soutien à la chef. C'est d'ailleurs ce désaveu des jeunes bloquistes qui a convaincu le trésorier du Bureau national du Bloc, Jules Gagné, de quitter ses fonctions. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, a-t-il le confié au Devoir. Les précédents désaveux de la chef de la part de la vice-présidente du parti, Kédina Fleury-Sanson, qui a quitté ses fonctions il y a 2 semaines, ou de membres de la permanence où les directeurs généraux se sont succédés depuis 1 an, préoccupaient M. Gagné. Mais il avait jusqu'ici choisi de rester en poste. « Quand les jeunes décident de lâcher Martine, pour moi, c'est comme le dernier clou du cercueil. » Le fils du député conservateur Luc Berthold a été accusé de trafic de crack par la pardonnez-moi. Je reprends, le fils du député conservateur Luc Berthold a été accusé de trafic de crack par la police de Thetford Mines. David Berthold, 21 ans, était recherché par les autorités à la suite d'une perquisition il y a 10 jours dans une résidence de Thetford Mines, où les policiers avaient trouvé du crack et du matériel servant à la fabrication de cette drogue. Le fils Berthold a été arrêté au volant de son véhicule lundi soir, alors qu'il était en possession de cannabis et d'une poudre blanche s'apparentant à de la cocaïne, selon la police locale. Les Montréalais qui possèdent déjà un cochon nain ou miniature à la maison pourront le garder. Le comité exécutif a donné son aval mercredi à l'ajout de cette espèce à la liste des animaux permis en vertu du règlement sur le contrôle des animaux. Le mois dernier, le cochon Babe avait fait les manchettes après que sa propriétaire, une résidente de Schlaga-Maisonneuve, eut reçu la visite de la patrouille canine qui l'avait nommée, sommée de se départir de son animal. Valérie Plante avait promis de trouver une solution pour Babe. Les documents fournis aux élus précisent que les propriétaires de cochons devront obtenir un permis et démontrer qu'ils avaient leur animal lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Les cochons gardés comme animaux domestiques ne doivent pas avoir un poids dépassant 60 kg à l'âge adulte et ne pourront fréquenter les aires d'exercice canin. Entre 8 000 et 9 000 membres des forces de l'ordre seront déployés pour la sécurité du sommet du G7 qui aura lieu au manoir Richelieu de la Malbaie dans la Charlevoix les 8 et 9 juin. C'est ce qu'ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse à Québec mercredi après-midi. Ces données ne tiennent pas compte des militaires qui seront également déployés pour l'occasion. Ce type de forum est habituellement la cible de contestataires, que ce soit des anticapitalistes, des groupes anti-pauvreté, etc. Mais le chef de police de Québec, Robert Pigeon, a précisé que l'indice de menace est actuellement évalué à modéré. Merci d'écouter le Canal M de Vues et Voix. Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous pour la suite de l'émission.
Plus rien ne vient.
j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai qu'un oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli. Dans mon cœur si lourd, et pourtant j'attendrai ton retour, et pourtant j'attendrai ton retour, et pourtant j'attendrai.
Ibrahim Malouf, qui était avec Mélodie Gardot, nous chantait « J'attendrai ».
À la une du Journal de Montréal, médecins de famille, la moitié travaille 4 jours et moins. Les médecins omnipraticiens ont obtenu d'importantes hausses de salaire, mais ils travaillent moins qu'avant. En 2015, le ministre Gaétan Barrette voulait les pousser à pratiquer en moyenne 210 jours par année, mais ils en ont travaillé seulement 190 l'an dernier. Publicité libérale chez Revenu Québec, c'est une chronique de Michel Girard. 375e, un an plus tard, la recette du gâteau des Montréalais. Abanda a raison d'être vigilante, c'est la chronique de Régent Tremblay. L'éolien le plus cher en Amérique du Nord est au Québec. Deux mois d'enquête pour le reportage sur Théo Taxi. Le reportage sur la zizanie qui s'est installée chez Théo Taxi, publié dans notre section Argent d'hier, a nécessité 2 mois de travail journalistique avant d'aboutir à la une. Nous tenons à le préciser ce matin en réponse aux graves accusations portées hier au sujet de notre intégrité par le nouveau président de campagne du Parti libéral du Québec, Alexandre Taillefer. Au micro de Paul Arcan, au 98,5 FM, c'est Danny Doucet, rédacteur en chef, qui signe cet article. M. Taillefer laissait clairement entendre que ce reportage ou son traitement aurait pu avoir été influencé à des fins partisanes par le patron de Québécois, Pierre-Carl Péladeau, ex-chef du Parti québécois, comme tout le monde le sait. Malheureusement, pour la théorie du complot échafaudée par M. Taillefer, nous travaillons sur ce dossier depuis la fin mars grâce aux confidences d'une première source. C'était donc presque 2 mois avant que M. Taillefer surprenne bien du monde en annonçant son ralliement au Parti libéral. Je n'ai pas tout lu l'article signé M. Doucet, mais je vais lire la chronique dans Opinion de Claude Villeneuve intitulée « À l'intention de M. Taillefer ». Alexandre Taillefer a laissé entendre hier que les chroniqueurs qui écrivent dans le journal devaient s'interroger sur leur impartialité. Il se demande si la position éditoriale des médias de Québécois est en phase avec les positions politiques bien connues de son propriétaire. Après nous être bien interrogés, nous avons décidé de lui répondre. Nous informons d'abord M. Taillefer que le journal n'a pas de ligne éditoriale conformément aux souhaits de son fondateur, Pierre Péladeau. Le seul mot d'ordre que nous avons, c'est celui de la diversité des idées. Nos lecteurs trouvent dans nos pages des points de vue souverainistes et fédéralistes, tantôt de droite et tantôt de gauche. Nos chroniqueurs n'ont d'ailleurs pas la prétention d'être impartiaux, comme c'est plutôt le devoir des journalistes de nos salles de rédaction. le journalisme d'opinion poursuit une finalité différente. Nous le rappelons à M. Taillefer, dont l'intervention soulève des questions quant à son propre rapport avec les artisans des journaux qu'il possède. Chaque jour, nos chroniqueurs écrivent sur le sujet de leur choix. Laisser entendre que le propos de ces professionnels d'expérience est téléguidé par notre propriétaire est une insulte envers leur intelligence et leur intégrité intellectuelle. Dès le jour suivant l'annonce par M. Taillefer du rôle qu'il jouerait pendant la campagne électorale, il se plaignait d'être l'objet d'acharnement médiatique. Peut-être pense-t-il que nous ne devrions pas soulever les contradictions entre ses positions politiques et nous questionner sur les conflits qui pourraient survenir entre ses intérêts d'affaires et son implication partisane. En somme, M. Taillefer réclame une forme d'immunité. Nous sommes au regret d'informer M. Taillefer que la réalisation de ses ambitions politiques promet de revêtir des aspects particulièrement pénibles pour lui s'il maintient de telles attentes face aux médias. Pour sa propre sérénité et celle du travail journalistique, nous lui souhaitons de se doter d'une carapace et surtout qu'il le fasse rapidement. Toujours dans les opinions, constat d'échec, c'est José Legault. L'immigration s'annonce comme un des thèmes de la campagne électorale. Première dans les sondages, la CAQ saute à son tour sur ce terrain. Notre collègue Alec Castonguay de l'actualité révélait les grandes lignes de l'offre caquiste. Réduction temporaire des seuils d'immigration, création d'un droit à la francisation obligeant l'État à fournir les ressources nécessaires, employabilité, accompagnement personnalisé. L'approche est certes imparfaite, mais elle est étayée et flexible. Quant au Parti québécois, il mise entre autres sur une immigration déjà francophone. Bref, présumons de la bonne foi des deux partis pour leur volonté d'agir sur un terrain laissé en jachère depuis trop longtemps. Car si débat il y a encore, c'est que nous sommes face à un immense échec politique. Depuis 20 ans, rouge ou bleu, les gouvernements ont abdiqué leur responsabilité de voir à une intégration proactive des immigrants. Surtout, ils ont oublié l'essentiel, soit que pour le seul État francophone d'Amérique, la vraie manière d'assurer une intégration réussie est de bâtir une société où, pour reprendre le concept clé de la Charte de la langue française, la loi 101, le français serait la langue normale et habituelle au Québec, tout comme l'anglais pour le reste du Canada. Or, malgré les voyants jaunes qui s'allumaient déjà dans les années 90 sur le recul du français, les gouvernements ont refusé de renforcer une loi 101 pourtant affaiblie à répétition par les tribunaux. Résultat, dans la grande région de Montréal où la plupart des immigrants s'installent, ils ont laissé les milieux de travail se bilinguiser. L'État a bilinguisé ses propres communications avec les citoyens. Idem dans les commerces, l'affichage et l'éducation supérieure. Au lieu de renforcer la francisation tout en encourageant le multilinguisme individuel, l'État jure vouloir franciser les immigrants. Mais par son inaction, il les plonge dans une métropole bilingue, où même un boulot au salaire minimum exige la connaissance de l'anglais. Cherchez l'erreur. Montréal a payé 750 000 $ pour 207 drapeaux inutilisés. Achetés pour le 375e anniversaire de Montréal, ils dorment présentement dans un entrepôt. C'est la Société des célébrations du 375e anniversaire, dis-je bien, l'organisation mandatée par l'administration Coderre pour organiser les fêtes de 2017 qui a acheté ces drapeaux. L'été dernier, ils ont été installés sur plus de 1 km le long de la rue Sherbrooke près du Musée des beaux-arts de Montréal. Chacun hissé sur leur base de béton surmontée d'une large tige de métal, ils représentaient les 192 pays du monde, les 14 provinces et territoires du Canada, ainsi que la ville de Montréal. Leur installation, qui se voulait un hommage à Expo 67, s'inscrivait dans le cadre du projet « Balade pour la paix », orchestré par le Musée des beaux-arts de Montréal. Le concepteur du projet, Claude Cormier, estime pour sa part que les drapeaux ont coûté 750 000 $, comprenant l'installation et le démontage. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, ça me déçoit. Les gouvernements municipaux, c'est une grosse machine que nous ne contrôlons pas. J'aimerais bien que ça puisse renaître quelque part un jour. Il ne faut juste pas les oublier, a dit M. Cormier. Linda Boutin, porte-parole de la Ville, indique que les drapeaux seront encore entreposés pendant au moins cet été. Le temps que la Ville trouve un site autre que la rue Sherbrooke pouvant les accueillir de façon permanente. Elle soutient que les drapeaux devaient être retirés puisqu'ils rendaient impossible le déneigement de la rue Sherbrooke. Le Guatemala a inauguré hier à Jérusalem sa nouvelle ambassade en Israël, emboîtant le pas aux États-Unis dans une démarche de rupture diplomatique qui ulcère les Palestiniens. Le Guatemala est devenu le deuxième pays à transférer sa représentation diplomatique à Jérusalem, quand son président Jimmy Morales et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont ouvert la nouvelle ambassade dans une tour moderne et excentrée du sud de Jérusalem. La direction palestinienne a accusé le gouvernement guatémaltèque de se placer du côté des crimes de guerre israéliens. La cérémonie au troisième étage d'une tour est loin d'avoir suscité le déploiement sécuritaire et médiatique de l'inauguration américaine, et plus encore de retenir l'attention des Palestiniens.
Bye.
On vient d'entendre une artiste originaire du Bénin. Maintenant, elle reste à Montréal. Elle s'appelle Karine au micro. C'était la pièce Mano Te Pao.
Unis pour adopter un Béluga, c'est dans le quotidien Jonathan Hudon. Il n'y a pas d'âge pour avoir une conscience environnementale. La preuve est que 14 élèves de l'école des 80 de Chicoutimi-Nord participent à la campagne « S'unir pour leur avenir », dont l'objectif est d'adopter un Béluga du Saint-Laurent, une espèce marine en voie de disparition. L'école primaire et l'organisme de bassin versant du Saguenay, OBV Saguenay, ont procédé au lancement de cette campagne mercredi midi. La secrétaire de direction d'organisme de bassin versant du Saguenay, Rachel Dionne, avait tâté le pouls des membres du service de garde à l'automne grâce à la collaboration de sa responsable Marie-Ève Chiasson. C'est une campagne qui vise à lever des fonds pour soutenir la recherche sur le Béluga dans le but de mieux comprendre les causes de son déclin, a expliqué Rachel Dionne. La recherche scientifique est réalisée par le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, GREM, basé à Tadoussac. L'objectif est de sensibiliser la population du Saguenay et même au-delà à la situation du Béluga du Saint-Laurent qui est en voie de disparition. L'idée des deux partenaires est donc d'adopter collectivement un Béluga, un geste qui permet de financer la recherche sur le mammifère marin. Le GREM dresse un portfolio des Bélugas disponibles à l'adoption, ce qui fait en sorte que l'OBV Saguenay et l'École des 80 vont pouvoir choisir le cétacé qu'ils adoptent. L'adoption pour une durée d'un an représente un montant de 5 000 Si on s'aperçoit que ça prend trop de temps, on peut choisir de verser le montant au GREM et de participer à une allocation collective avec d'autres personnes qui ont amassé des plus petits fonds, a précisé Rachel Dionne. Les élèves ont été mis à contribution en découpant des capes en tissu placées sur chacun des 10 des 30 bélugas en peluche mis en circulation. Un numéro différent est inscrit sur chaque cape et le propriétaire de la peluche est invité à s'inscrire en ligne pour confirmer qu'il a bien reçu le Béluga. Il peut ainsi faire un don ou s'inscrire comme porteur pour ensuite redistribuer sa peluche dans un délai de 48 heures. On a 30 Bélugas qui vont partir à la nage et on s'attend à ce qu'ils soient transférés de main en main pendant les prochains mois jusqu'à ce qu'on ait amassé suffisamment de fonds pour adopter un Béluga, a souhaité la secrétaire de direction d'OBV Saguenay. Rachel Dionne a fait savoir qu'une telle collaboration avec une école primaire était une première du genre pour l'organisme. Enthousiasmée par l'engouement des jeunes face au projet, elle a maintenant hâte de voir jusqu'où va se rendre la campagne de sociofinancement. Normand Provencher, dans les pages du Soleil, le musée de la civilisation se met à l'heure de Big Ben et de la capitale anglaise à l'occasion de l'exposition Ici Londres, qui tiendra l'affiche jusqu'en mars 2019. Une occasion de découvrir l'effervescence de cette ville cosmopolite de l'après-guerre à nos jours, où sont nés des courants musicaux qui ont balayé toute la planète. Le directeur général de l'établissement du Vieux-Port, Stéphane Laroche, n'a pas manqué de souligner les caractéristiques uniques de la déjantée capitale britannique mercredi lors de l'inauguration de l'événement, rendu possible grâce à la collaboration de 8 institutions londoniennes, dont la Tate Gallery et le Museum of London et la supervision de la chargée de projet Caroline Lantagne. Au sol, une carte de Londres guide les pas des visiteurs. Au centre de la salle, une maquette de la City of London, cœur économique de la ville, fait office de carrefour pour partir à la découverte des différents quartiers, chacun ayant sa renommée. Chelsea, le berceau du mouvement punk, Abbey Road, lieu de pèlerinage des fans des Beatles, Soho, lieu de naissance des Swinging Sisters, Camden Town, reconnu pour ses marchés aux puces et sa culture alternative. Ère numérique oblige, le visiteur pourra compter sur une nouvelle application, mon MCQ, à télécharger sur son téléphone intelligent pour obtenir des informations supplémentaires en réalité augmentée. Dans la tribune, le photographe sherbrookois Marc Bailey a remporté le prix de photographe de l'année au Canada et le prix Youssouf Karch lors du 49e congrès des photographes professionnels du Canada qui se tenait récemment à Richmond, en Colombie-Britannique. M. Bailey avait déjà remporté à deux reprises le prix de photographe de l'année au Canada dans la catégorie portrait, soit en 2007 et 2014, mais il s'agit d'une première dans la catégorie artiste. Pour la compétition, le photographe avait soumis 4 photographies d'inspiration lugubre, voire sanglante. « Je suis un maniaque de cinéma et j'adore les films d'horreur. » Les photos sélectionnées ont été prises sur les plateaux de tournage de 3 émissions de Dossier Mystère, auxquelles j'ai participé à titre d'acteur et de photographe. Ça passait ou ça cassait. Finalement, ce qui a plu au jury est précisément le fait que mes photos soient troublantes, différente et qu'elle raconte une histoire, souligne le lauréat qui possède son studio de photographie depuis 1979. Les photographies qui lui ont permis d'être sélectionné parmi les 4 finalistes canadiens ont été prises à la prison Winter dans le grenier du Théâtre Granada et à la chapelle de l'Université Bishop. 2 images, Nightmare et Walking Dead, sont inspirées du meurtre de Mary Gallagher, une prostituée qui a été décapitée à Montréal en 1879. Les photographies Evil et Misery, ont reçu une mention coup de cœur des jurés. Par ailleurs, le prix Youssouf Karch a été remis à Marc Bailey pour l'ensemble de sa carrière et de ses réalisations. Né en Turquie, Karch a fait ses premiers apprentissages photographiques à Sherbrooke auprès de son oncle avant de se spécialiser aux États-Unis puis de s'installer à Ottawa. Donc, on dit que c'est le plus grand photographe portraitiste du 20e siècle. On parle ici de Youssouf Karch qui maintenant a un nom lié à un prix, le prix Youssouf Karch. Le Lockhart élevé, mais Brigitte Trahan dans le Nouvelliste, quelques minutes après avoir eu une discussion franche avec le premier ministre Philippe Couillard et la ministre de l'Enseignement supérieur Hélène David, le recteur de l'UQTR Daniel McMahon a annoncé la levée du lockout des professeurs mercredi avant midi. Le recteur a précisé que « nous avons tous à cœur un règlement négocié. Nous avons convenu ensemble de laisser une ultime chance à la négociation en cours. » Si la médiation n'aboutit pas à un règlement négocié et que le médiateur atteste du manque de collaboration de la partie syndicale, le gouvernement légiférera avant la fin de la session parlementaire qui se termine le 15 juin, a prévenu le recteur. Selon lui, le premier ministre et la ministre David s'y sont engagés fermement. Est-ce que l'ancienne 5e joueuse mondiale Eugénie Bouchard pourrait devenir la tête d'affiche de la prochaine édition du Challengers de Gatineau? Ce n'est pas impossible, avoue Mathieu Toupin, un des organisateurs du tournoi sanctionné par la Fédération internationale de tennis, ITF, et l'Association de tennis professionnel, ATP. La raquette québécoise a chuté de 51 places dans le dernier classement de la WTA, publié lundi. Âgée de 24 ans, Bouchard se retrouve maintenant 169e au monde. Elle n'a jamais été aussi basse dans la hiérarchie du tennis féminin depuis octobre 2012. Tôt ou tard, la finaliste de Wimbledon devra trouver une façon de refaire le plein de points. Plusieurs joueuses par le passé ont emprunté la voie des tournois Challengers sans S, pour reprendre leur place au sein de l'élite tennistique après des blessures ou une série d'insuccès. Bouchard n'est plus la joueuse canadienne la mieux cotée. Elle s'avère maintenant devancée par Françoise Abanda, 128e, qui a déjà participé au tournoi gatinois. C'est drôle à dire, mais nous pourrions avoir de meilleures chances d'avoir Eugénie que Françoise, a soutenu Toupin. Son équipe compte approcher Bouchard sous peu au sujet d'une éventuelle participation au Parc de Lille du 14 au 22 juillet. Restez avec nous à venir une chanson de Marc Derry et puis je vous parlerai culture ainsi que de sujets libres. Restez avec nous.
J'ai cherché à l'ouest, j'ai cherché au nord, j'ai cherché au sud, je cherche encore. J'ai regardé dedans, regardé dehors, j'ai refait le tour de l'autre bord.
Marc Derry et la pièce « T'es où ?»
Alors maintenant, la portion culturelle finit le clivage entre les volets franco et anglo. On parle de « Juste pour rire »,« Just for laugh », Véronique Lauzon dans la presse d'aujourd'hui. Pour la première fois, Juste pour rire et Just for Love ont dévoilé leur programmation ensemble lors d'une conférence de presse. Les directeurs parlent d'une nouvelle ère où les francophones et les anglophones travailleront conjointement. De plus, exit les thèmes dans les galas. Le copropriétaire Howie Mandel, le directeur de ZooFest, Patrick Roson, le président-directeur général de Just for Love, Bruce Hills et la productrice exécutive du volet Rue, Lynn Theriault, sont tous montés sur la scène du Club Soda pour parler de la programmation de la 36e édition, qui aura lieu du 14 au 29 juillet. Nous ne voulions plus de mur entre nous tous, dit Patrick Rozon. Parmi les têtes d'affiche, il y aura Russell Peters, Mike Ward, Maria Bamford, Jean-Marc Parent, Kenya Barris, Alexandre Barrette, David DeCross, Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques, Lisa Schlinz-Singer et Corinne Côté. Les cinq galas francophones, moins que l'an dernier, seront animés par Laurent Paquin, Les Denis Drolet, Jérémy Demey, Sam Breton et Pierre-Luc Funk. Par le passé, de nombreux artistes ont critiqué les thèmes imposés, Juste pour rire les a entendus et il n'y en aura plus. Les humoristes ont maintenant carte blanche pour présenter le numéro de leur choix. Il y aura aussi plus d'artistes dans chaque gala. Nous étions déjà en train de repenser le festival Juste pour rire. Nous voulions l'amener ailleurs. La crise, c'est con, mais ça a propulsé tout ça. Ça fait en sorte que nous avons pu attaquer directement le problème et décider comment nous allions changer ça, explique Patrick Rozon. Depuis son arrivée à la tête de ZooFest en décembre 2014, Patrick Rozon a redressé cette division de Juste pour rire. Il y avait plein de problèmes financiers et de communication. Je me souviens que je disais souvent, et je le cite, « Chris, si un festival de cinéma pour jeunes du secondaire est plus professionnel que ZooFest, il y a un problème », avait expliqué Patrick Rozon à la presse en juillet dernier. À cette même époque, Jay Dutemple nous avait confié qu'il avait décidé de son plein gré de ne pas participer au festival Juste pour rire, mais qu'il était ravi de monter sur scène au ZooFest. De nombreux autres artistes semblaient bouder le grand festival de l'humour, lui préférant son petit frère. Juste pour rire est un peu le Chanel de l'humour. Il fallait trouver un moyen d'intéresser les jeunes humoristes connus à y venir, dit M. Rozon, Patrick de son prénom, directeur de ZooFest. Comment peut-on mixer les deux, c'est-à-dire mélanger les stars connues et ceux qui sont en train de percer et qui sont déjà très forts? C'est la balance que nous essayons d'atteindre et on va le sentir beaucoup dans les galas, promet-il. Le gala de Sam Breton est d'ailleurs consacré à ZooFest, qui célèbre ses 10 ans d'existence cette année. Le gala de Pierre-Luc Funk présentera lui aussi une brochette de jeunes humoristes. Oui, le festival Juste pour rire veut rajeunir son public. Un Jay Dutemple pourrait-il revenir sur les planches du festival Juste pour rire? Absolument, dit Patrick Rozon en souriant. Après le scandale Gilbert Rozon, des humoristes ont hésité à s'associer de nouveau à Juste pour rire. Ce fut le cas de Pierre-Luc Funk. Après tout ce qui est arrivé, je voulais m'assurer qu'il y avait eu un changement de direction et que le ménage avait été fait, dit-il. C'était beau pendant la conférence de voir les Anglais et les Français ensemble. On sent qu'il y a maintenant une famille, qu'ils ont uni leurs forces. Ça fait du bien de sentir ce désir de changer les choses ensemble, a dit Pierre-Luc Funk, animateur d'un des galas. Anaïs Favron a elle aussi exprimé sa joie de voir les anglophones et les francophones unis dans cette prochaine édition. Mais contrairement à Pierre-Luc Funk, celle qui animera le Super Quiz Show sur une des scènes extérieures n'a pas hésité à travailler de nouveau avec Juste pour rire. « Pour moi, ça allait de soi de revenir. Juste pour rire est beaucoup plus grand que son créateur. Ça fait 15 ans que je travaille avec eux. Et concrètement, je ne le voyais pas, Gilbert Rozon. Ce n'est pas avec lui que je travaillais, dit l'animatrice. » Anaïs Favron se dit heureuse de voir les changements s'opérer et de voir les nouveaux propriétaires. « J'ai l'impression qu'au lieu de vivre une édition un peu plus noire, on va « jumper », on va aller plus loin. » Serge Denoncourt dirige 30 jeunes garçons dans une adaptation du populaire film Les Choristes. En 2004, le gentil film du français Christophe Baratier avait conquis bien des cœurs à travers le monde. Serge Denoncourt n'était pas de ceux-là. J'étais trop vieux pour aimer ça et trop jeune pour en voir le côté nostalgique de l'enfance. Le méchant juge des dieux de la danse, méchant étant entre guillemets, a donc commencé par refuser la mise en scène de ce récit plein de bons sentiments. C'est un texte de Marie Labret que je vous en lis quelques passages. Puis, en revoyant les choristes, il a réalisé que même si le film est sans aspérité et très consensuel, c'est l'histoire d'un homme qui va dans un milieu défavorisé aider des jeunes sans avenir. Une expérience qu'il a lui-même vécue auprès de Rome, vivant dans un bidonville avec le spectacle Grob. C'est surtout cette situation de transmission, cette position de mentor avec des enfants, qu'il a eu envie de répéter à travers le projet. Les choristes demandent une énergie complètement différente de celle du metteur en scène normal. On est coach de hockey, animateur, j'adore ça, dit Serge Denoncourt. Alors, on pourra voir les choristes du 23 mai au 23 juin dans le cadre du festival Juste pour rire. En fait, c'est une production de Juste pour rire au Monument national. Et en juillet, le metteur en scène va diriger Edmond du français Alexis Michalik, aussi produit par Juste pour rire. Une organisation devenue pestiférée pour plusieurs. Denoncourt, lui, a décidé de ne pas se retirer de ses projets. Il estime qu'en liant les spectacles aux allégations contre le fondateur, on mélange deux sujets. Si j'annule ces shows, je punis qui? Je punis 40 acteurs, des concepteurs, le public, pas le principal concerné. À l'été 2019, Denoncourt, recruté par des Français émus par son dialogue des Carmélites, va créer Bernadette de Lourdes sur les lieux de la dite apparition de la Vierge. C'est l'histoire d'une fille de 13 ans qui tient tête à tout le monde, dont il a écrit le livret à partir des interrogatoires du Vatican. Un autre projet où personne ne l'attendait, à commencer par lui, le non-croyant. Mais c'est ce que je trouve formidable. J'ai 56 ans et je n'avais pas essayé ça encore, une comédie musicale religieuse. Le plagiat en humour défraie la chronique en France depuis que le YouTuber CopyComique diffuse des vidéos faisant état de similitudes troublantes entre les sketchs de certains humoristes. Faisant flèche de tout bois, Sugar Sammy a lancé là-bas une campagne de publicité signée par l'agence québécoise LG2 qui fait directement référence à cette controverse. « Faites vite avant que ces blagues soient reprises par des humoristes français », clame une affiche annonçant sa série de spectacles à venir à l'Alhambra, à Paris, affiche dont il a diffusé une photo sur Twitter. Invité sur le plateau de l'émission Clic Dimanche à Canal+, en novembre dernier, l'humoriste québécois avait qualifié d'inquiétant le phénomène du vol de blagues dans l'Hexagone. Le distributeur CV International a annoncé hier soir que Sony Pictures Classics a acquis les droits de la chute de l'Empire américain de Denis Arcand pour distribution aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les droits du film ont aussi été vendus à d'autres distributeurs pour la Chine, la Russie, la Grèce et Taïwan, entre autres. Par ailleurs, les films CV et la maison de production Cinémaginaire ont dévoilé hier la bande-annonce officielle du film qui sortira en salle le 28 juin. L'œuvre raconte l'histoire d'un jeune livreur bardé de diplômes mais sans le sou, qui est confronté à ses valeurs lorsqu'il se retrouve avec une énorme somme d'argent volée entre les mains. Travis Cormier se produira en première partie de Bon Jovi demain, toujours sous l'aile d'Éric Lapointe depuis son passage à La Voix en 2016. Travis Cormier pourra bientôt compter sur l'aide d'une autre icône du rock pour lancer sa carrière, Bon Jovi. Le jeune chanteur espère profiter de sa prestation en première partie du groupe américain pour relancer la Travismania au Centre Bell demain soir. Au départ, tout est arrivé tellement vite, il parle de son expérience à La Voix. D'un jour à l'autre, je me suis retrouvée à être connue par des millions de gens. Ça m'a beaucoup mis de pression, ça m'affectait. Alors après La Voix, j'ai voulu me donner un an pour écrire des chansons qui seraient à la hauteur. Deux ans plus tard, mon album est terminé et je réalise que ça a valu la peine d'attendre, explique le chanteur.
On vient d'entendre la formation Canary qui nous chantait « Passager ».
Le dessert des Montréalais, c'est dans le Journal de Montréal, Andrea Jourdan. Patrice Demers est un pâtissier exceptionnel. Il est célébré pour son talent qui n'est plus à démontrer depuis Belle Lurette, son humilité qui est naturelle et son savoir-vivre. Que la Ville de Montréal lui ait demandé de créer une recette spéciale pour le 375e anniversaire de sa fondation n'est pas surprenant. Pourquoi pas? Fille de pâtissier moi-même, écrit Andrea Jourdan, je tiens aussi à féliciter l'ex-maire Coderre. Pas pour avoir acheté une recette, mais plutôt pour son choix de pâtissier. Tant qu'à choisir, il est vrai que si on a le budget, autant se payer le meilleur. Pour l'occasion, Patrice Demers a créé un dessert complexe qui utilise des ingrédients typiquement montréalais. melasse, bière, miel et sarrasin. Puisque la ville l'a acheté, c'est maintenant la recette de tous les Montréalais. Que faire de cette recette? On pourrait fêter la Fondation de Montréal tous les ans et tous les pâtissiers pourraient offrir le dessert de Patrice au prix modeste de 1 $. Il y a les fous de la cuisine qui, je l'espère, vont essayer la recette et inviter 300 convives. En fait, cette recette pourrait devenir le gâteau de toutes les occasions. Mariage, baptême, party de grosse famille auraient désormais leur gâteau et plus jamais on ne se demanderait ce qu'on mange comme dessert. Le seul hic, c'est que cette recette est complexe. Puisque nous l'avons payée, nous devrions pouvoir la préparer dans nos chaumières. Pourtant, ce n'est pas le cas. La recette est calculée pour 300 portions. Elle compte trop d'étapes. Personne n'a l'équipement nécessaire à la maison pour venir à bout de la fabrication de ce gâteau. Pire, trouver les ingrédients exacts de la recette peut se transformer en quête du Graal. La bière, j'ai une équipe de 3 personnes qui ont mis plus de 2 jours à la trouver. Le miel de l'accueil Bonneau, pas facile de le trouver et en vendre dans seulement quelques épiceries. J'ai dû aller jusqu'à l'accueil Bonneau pour le trouver. Je sais, n'importe quel miel fera l'affaire, mais les puristes de Montréal voudront sûrement goûter la véritable recette. Et bien sûr, il y a les chocolats de la gamme de Valrhona qui ne sont pas disponibles partout. Pour le commun des Montréalais, il faut beaucoup de temps de recherche puis de préparation. Enfin, certains se sont offusqués que la Ville de Montréal ait payé 1 $ pour obtenir les droits sur la recette. Il faut comprendre que la vente de recettes est une pratique courante dans le milieu de la gastronomie. Plus le chef est reconnu, plus son tarif est élevé. De nombreux chefs, moi y compris, en ont vendu à des restaurants, des magazines, des webzines ou tout simplement à des clients qui veulent se faire plaisir. Les prix des recettes varient et si le client exige une exclusivité, le prix sera beaucoup plus élevé. Et pour aller plus loin, tous ceux qui se paient un livre de recettes achètent des recettes. Nous avions la poutine, le bagel et le smoked meat de Montréal. Pourquoi se contenter de ces plats délicieux, certes, mais assez banals? Vous avouerez que le gâteau de Patrice relève la barre et place Montréal avec Paris au niveau de grandes villes pâtissières. Rien que pour cela, ça valait la peine. Maintenant, profitons-en. Alors, on poursuit dans la lignée de ce dessert. Le journal Cuisine, le fameux dessert à 1 $ créé par Patrice Demers pour le 375e, on nous donne la recette de ce chocolat, de ce gâteau au chocolat, donc Andoa, mélasse, miel de Bonneau, bière et sarrasin. La chef et chroniqueuse au journal, Andrea Jourdan, a préparé le dessert du pâtissier Patrice Demers en suivant à la lettre la recette achetée 1 $ par la ville à l'occasion des célébrations de son 375e anniversaire. Il y a un an, les invités du maire de Montréal, Denis Coderre, avaient découvert le dessert de Patrice Demers. Maintenant, c'est un article signé Étienne Paré, toujours dans le journal. Pour l'occasion, Montréal avait déboursé 4 700 2 100 pour 700 bouchées, 1 $ pour les droits de la recette et 1 $ pour la présence du pâtissier. À l'occasion du 376e anniversaire de Montréal, le journal a préparé le fameux dessert. Premier constat, mettre la main sur tous les ingrédients relève de la course à obstacles. Pour le pâtissier Patrice Demers, tout devait rappeler Montréal. La mélasse, qui fait référence au défunt quartier du Faubourg à Amelas, le sarrasin, qui a occupé une place centrale dans la gastronomie montréalaise, la bière brassée à la brasserie de Montréal et le miel produit à l'accueil Bonneau. Deuxième constat, la recette est compliquée. Réaliser toutes les étapes de sa préparation demande une expertise qui dépasse celle du cuisinier moyen. En lisant la recette, on comprend vite qu'on est condamné à l'échec. Dans sa cuisine professionnelle, l'équipe d'Andrea Jourdan a relevé le défi. Au final, ça donne un doux mélange d'amertume et de sucré, très riche, qui surprend à la première bouchée. Le Journal de Montréal a fait goûter le dessert aux Montréalais. Le résultat est mitigé. C'est évident que ce n'est pas aussi accessible qu'un gâteau au chocolat ou au caramel. C'est un gâteau qui demande une certaine introduction pour l'apprécier, reconnaît celui qui a eu le délicat mandat de le concocter, le réputé pâtissier Patrice Demers. Le journal a fait goûter à quelques Montréalais choisis au hasard. Leur verdict? Riche, un peu amer, mais savoureux. Ils y ont goûté. « Ce n'est pas un bon investissement pour Montréal », a dit Guillaume Gélina. C'est bon, mais ce n'est pas « wow », a dit Amir Essaati. C'est vraiment bon. Je donne 10 sur 10. Isaac Azibuo. Et chaque partie du gâteau a un goût unique, mais essentiel. Un peu à l'image de Montréal et de ses quartiers, finalement. C'est ce qu'a dit Aline Bertrand après avoir goûté la chanceuse au fameux dessert de Patrice Demers. Éloge du grand écrivain, c'est Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Montréal. Richard Martineau en parlait hier. Tom Wolfe, un des grands écrivains américains de notre temps, vient de mourir à l'âge de 88 ans. Comme tous les grands écrivains, il ne se contentait pas de savoir raconter une histoire, ce qui est déjà beaucoup. Il avait une vision du monde et décryptait la société à partir de ses obsessions et d'un sens aigu de l'observation. Il voyait le monde et surtout ce que le monde refuse qu'on voit de lui. Il savait percer les apparences. Il a démasqué l'hypocrisie américaine de la plus belle manière, dans un style propre aux grands écrivains américains qui sont souvent de grands journalistes. À la différence des écrivains sirupeux qui veulent nous préparer du bouillon survitaminé pour l'âme, il se représentait la société comme une formidable comédie humaine qu'il s'était donné pour mission de décrire. Si j'écris à son sujet aujourd'hui, c'est non seulement pour lui rendre hommage, mais pour rappeler l'importance des grands écrivains dans une vie. Les Québécois, on le sait, ne sont pas de grands lecteurs. La littérature n'occupe pas chez nous la même place qu'en France. Au Québec, le grand lecteur demeure une créature exotique. Rares sont ceux qui goûtent le plaisir de se construire une bibliothèque personnelle au fil de leur vie et de l'habiter mentalement de plus en plus. Et pourtant, qui rencontre la grande littérature dans son existence en sera très probablement transformé. Il découvrira un monde qui permet moins de fuir la réalité qu'il ne la transfigure et la révèle sous un autre visage. J'ajoute que dans une société du tout à l'écran qui assèche notre imagination en nous représentant le monde à notre place, la littérature nous réapprend la liberté d'imaginer la vie par nous-mêmes. Déplaçons-nous dans l'univers francophone, lire de grands écrivains, quoi qu'on en pense, ne veut pas seulement dire les classiques de notre siècle. Évidemment, il faut les lire, mais il y a des écrivains bien vivants qui peuvent nous bouleverser. Qui lira Michel Houellebecq, par exemple, comprendra mieux l'espèce de fatigue existentielle en forme de névrose sexuelle qui domine le monde occidental. Qui lira Sylvain Tesson et ses récits découvrira l'esprit d'aventure et le véritable sens de la liberté. À mes étudiants, je donne souvent ce conseil, découvrez un auteur qui vous passionne et plongez dans son œuvre. Vous y trouverez un monde qui vous donnera ensuite envie d'y revenir, tout en découvrant des nouveaux. Ce conseil, je vous le donne aussi, amis lecteurs. Éloge du grand écrivain Mathieu Bock-Côté. Merci d'avoir été à l'écoute de Le quotidien des quotidiens. Bonne journée. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. On se retrouve tantôt au Par Actualité.